La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur la première. Christine Delmotte, autrice et metteuse en scène, Alexandra Hubin, docteur en psychologie et sexologie, Chris Polis, anthropologue, sont avec nous ce soir pour célébrer la journée internationale des droits des femmes de ce jeudi 8 mars dernier. Bienvenue à Libre Ensemble. On ne naît pas femme, on le devient. On ouvre la réflexion ce soir sur cette magnifique phrase de Simone de Beauvoir.
Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Nizin.
Alors cette phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, elle nous parle à chaque époque. Qu'est-ce que devenir femme? Quels furent les combats pour des acquis gagnés de haute lutte, le droit à l'avortement et la liberté de disposer de son corps? Par exemple, Christine Delmotte, bonsoir Christine.
Bonsoir.
Autrice et metteuse en scène du spectacle Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Alexandra Hubin, bonsoir Alexandra. Docteur
bonsoir.
En psychologie, sexologue et co-auteur de l'ouvrage Entre mes lèvres, mon clitoris. Et enfin, au téléphone, nous avons Chris Polis. Bonsoir Chris.
Oui, bonsoir.
Docteur en anthropologie au département des arts et sciences de la communication de l'Université de Liège. Vous êtes avec nous donc par téléphone. Alors Christine Delmotte, on commence avec vous. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Un spectacle qui raconte différentes histoires de lutte des femmes. Quatre jeunes actrices formidables qui jouent plusieurs épisodes clés assez méconnus de l'histoire des femmes. Les suffragettes en Angleterre tout d'abord et leur lutte pour le droit de vote en 1913. Les féministes en France pour le droit à l'avortement en 71, la jeune Malala au Pakistan pour le droit à l'éducation en 2012 et enfin les Femen en Ukraine. Alors, humour, autodérision, réunion féministe, interview live, extrait vidéo d'époque, utilisation d'objets farfelus aussi, un patchwork haut en couleur et didactique tout à fait assumé que vous mettez en scène et dont vous signez l'écriture. Alors, comment est née l'idée d'un spectacle sur les femmes en lutte, l'envie de départ et même le titre que vous avez glané où d'ailleurs
voilà. Expliquez-nous. Alors, le titre, je l'ai vu sur un panneau lors d'une manifestation à Bruxelles pour défendre les Espagnols qui avaient des soucis avec leur gouvernement qui voulait délégaliser l'avortement. Enfin, il y a 3-4 ans, je dirais, plus ou moins. Et donc, on était en rue, place du Luxembourg, et sur une affiche, il y avait ce titre. Mm-hmm. Je l'ai noté en me disant, ça c'est formidable, je m'en servirai un jour, c'était le titre formidable. Et donc, j'ai eu d'autres titres pour la pièce, puis celui-là est revenu. Et c'est vrai qu'il parle totalement, parce que chaque épisode que je raconte, ce sont ces sorcières assumées qui se battent, voilà, qui luttent pour...
Alors, c'est une envie de longue date de pouvoir parler des luttes qui ont été acquises par les femmes avec beaucoup de combats.
Comme metteuse en scène, en fait, je cherche régulièrement des sujets à transmettre, des sujets à mettre en scène. Et c'est vrai que, comme féministe depuis toujours, j'ai lu beaucoup de textes qui me semblaient parler de la lutte des femmes, mais aucun qui avec une perspective historique. Et c'est ce côté perspective historique que j'ai voulu écrire. Et c'est vrai que je voulais mettre en parallèle, enfin en regard, différentes luttes. Et c'est vrai que commencer par les suffragettes et puis terminer par les fémines, on voit qu'il y a par exemple des connexions. On voit qu'il y a une lutte jusqu'au boutiste des deux côtés. On voit que qu'elle s'engage à fond. Je dirais qu'elle s'engage même jusqu'à un certain degré de violence. Voilà, je voulais donc raconter ça, cette histoire du XXe siècle, parce que je me suis rendu compte qu'en tant que féministe, je ne la connaissais pas si bien que ça non plus. C'est une histoire qui ne m'avait pas été transmise en réalité. Et ça, voilà, quand on commence à lire, à gratter un petit peu, qu'on se rend compte qu'il y a des tas d'histoires extraordinaires qui nous servent actuellement, qui font qu'on a nos droits, nos acquis, qu'on connaît à peine. Voilà, donc en grattant un petit peu, j'ai voulu faire vivre différentes situations qui racontaient cela.
C'est ce que les jeunes sur scène aussi, les quatre jeunes actrices disent, c'est qu'on ne m'a jamais appris tout ça. Il n'y a pas de transmission, je dirais, même de mère à fille, ou de père à fils, ou de femme à femme. Pourquoi, selon vous?
Parce que c'est une histoire inconnue, et que jusqu'à... enfin, moi, je suis née en 1963, donc c'est une époque où la femme devait encore demander l'autorisation à son mari pour signer, pour aller à la banque, je dirais, devant encore... voilà, c'est une époque invraisemblable. Donc, ma mère a dû demander l'autorisation à mon père pour beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'elle aurait même eu l'idée... Alors que je considère que ma mère était relativement féministe, mais est-ce qu'elle aurait même eu l'idée de me transmettre des choses qu'elle connaissait à peine? Donc voilà, je pense qu'on revient de très très loin en fait, en réalité. On vient de loin, on a... on a eu peu de choses pour nous aider à transmettre ça. Et donc, ça me paraissait important de le faire comme metteuse en scène.
Je disais en introduction que cette pièce, ce spectacle, est didactique, mais assumé. C'est ce que vous vouliez aussi. Comment est-il reçu, ce spectacle? Parce que vous faites souvent des conférences après, une espèce de conversation avec le public et de questions-réponses. Comment est-ce qu'il est perçu, le spectacle?
Par exemple, c'est vrai qu'hier soir, on a joué à la Cité Miroir de Liège. Il y avait un public nombreux, de tous âges, qui me paraissait très enthousiaste par rapport aux propos et par rapport à la découverte, évidemment, des quatre histoires. Donc, on est en train, en fait, on va jouer, par exemple, un mois, c'était à Avignon, dans une salle. On espère vraiment le tourner beaucoup, évidemment, dans toutes les salles. On va toujours en Wallonie, bientôt aussi, tout le mois de novembre. C'est un spectacle qu'on veut diffuser, mais que je souhaite absolument jouer devant des scolaires. Et ça, on cherche vraiment les moyens de faire en sorte que des scolaires, à partir de 13-14 ans, viennent voir ce spectacle. Et donc, que cette histoire des luttes féministes soit transmise. Pour ça, voilà, on fait différentes démarches pour le moment, en plus du théâtre, du spectacle grand public, des spectateurs grand public, qu'on a déjà atteint, parce que nous avons joué ce spectacle à bureau fermé quasiment au Théâtre des Martyrs il y a un an. Et voilà, et depuis on est en tournée, quoi. On était à Stavelot dernièrement, à Liège, à Namur. Donc c'est un spectacle qui, je pense, va encore beaucoup voyager. Et je souhaite vraiment atteindre les scolaires. Donc pour les gens qui entendent et qui veulent nous contacter par rapport aux scolaires, ce serait un plaisir d'accueillir des classes, parce que les actrices, effectivement, peuvent faire des animations avant. Voilà, il y a des animations potentielles pour leur faire comprendre théâtralement ce qui se passe, pour leur faire comprendre pourquoi on a choisi ces événements-là, etc.
Quoi. Alors, il y a un passage, il y a toute une partie du spectacle qui parle du corps de la femme, justement, et de sa sexualité. Une des comédiennes crie même, à un moment donné, « Vive la masturbation de nos mères !» Bon, ce qui fait un peu sourire, évidemment, dans le public. Vous osez les mots, dans ce passage-là, où on assiste d'ailleurs à un cours d'auscultation gynécologique. Disposer de son corps librement et d'abord bien le connaître, c'est aussi pour vous une lutte féministe importante.
C'est extrêmement important. Donc, comme on sait, dans le féminisme, il y a plusieurs vagues. Il y a la première vague des suffragettes avec le droit de vote. Il y a la seconde vague qui est le droit à son propre corps. Et elle dit, en fait, battons-nous pour la masturbation de nos mères. Ce qui fait évidemment fort rire le public, quoi. Voilà. Et elle raconte, entre autres, autour de l'événement de l'avortement, elle parle de l'auto-examen gynécologique qui sont des ateliers qui se font encore maintenant à Bruxelles, par exemple avec Femmes et Santé, Karine Marchand organise des choses comme ça formidables, mais qui se sont beaucoup faites dans les années 70, enfin en tout cas dans les milieux féministes. Auto-examen gynécologique. Quand on m'a raconté ça la première fois, moi je n'ai pas eu l'occasion d'en faire, ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, ça, il faut raconter, c'est formidable. C'est vraiment des mises en situation comme ça incroyables où les femmes se découvrent l'une l'autre, je dirais, découvrent leur sexe, tout ça pour que, effectivement, la médecine n'est pas plein pouvoir sur ces femmes, qu'elles retrouvent le pouvoir de leur corps.
Mais peut-être faudrait-il y revenir aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît mieux son corps aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les jeunes filles de 13 ans, est-ce que vous pensez que ce ne serait pas justement aussi didactique?
Moi, je pense que c'est très important. Effectivement, ce genre d'ateliers sont très importants, vraiment. Auto-examen gynécologique, c'est essentiel. Donc, il faudrait promouvoir ça dans les écoles. Vraiment, sans rire en plus.
Qu'en pensez-vous, Alexandra Hubin, docteur en psychologie et sexologue d'ailleurs?
Écoutez, pour la première fois, il y a un manuel scolaire où on a l'anatomie complète de la femme en y intégrant le clitoris. Et donc avant, c'était complètement gommé. Donc pour les hommes, enfin pour les jeunes garçons, là c'était bien clair, on expliquait la double fonction du pénis. Mais par contre pour les femmes, on omettait toute la partie plaisir, donc cet organe qui est dédié à 100% au plaisir sexuel féminin.
Alors vous avez dédié un livre 100% à cet organe féminin qu'est le clitoris. Vous avez coécrit avec Caroline Michel « Entre mes lèvres, mon clitoris, confidence d'un organe mystérieux », environ 150 pages donc sur le clitoris. Un titre tout à fait assumé. Alors pour la petite anecdote, je l'ai lu dans le train il y a quelques jours et les regards étaient assez étonnés évidemment de mes co-voyageurs quand on se balade avec un livre qui arbore ce mot si fièrement. Alors vous avez aussi fondé ce que vous appelez la sexologie positive pour une sexualité épanouie et c'est une des luttes féministes aussi, ça, cette indépendance dans le plaisir. Le clitoris y contribue évidemment car il semblerait en effet que ce clitoris n'ait d'autre fonction que le plaisir, dites-vous dans votre livre. Nous verrons d'ailleurs avec Chris Polis combien ce clitoris dans le monde est considéré comme une imperfection de la création divine ou comment les pratiques d'excision permettent d'interdire justement cet organe, cet accès à l'orgasme des femmes. Alors, dans le règne du pénis, le clitoris n'est pas bien vu, dites-vous. Alors, pourquoi un tel livre? C'est un acte féministe de poser ce livre-là sur la table?
Je pense pas que c'était cette intention-là. En fait, on était avec Caroline, donc journaliste. C'est notre deuxième livre ensemble. On a eu un coup de foudre. On s'aime beaucoup et on fonctionne très bien au niveau professionnel pour écrire. Et on cherchait avoir quelque chose qui sorte un petit peu de ce qu'on peut lire actuellement. Ce qui se passe, c'est que pour la sexualité, oui, on est de plus en plus revendicateur d'une sexualité qui soit épanouissante. On nous donne des trucs et astuces pour savoir comment accéder à plus de plaisir. Et nous, on voulait casser ça en disant, ben non, en fait, prendre du plaisir dans sa vie sexuelle, c'est pas suivre à la lettre une recette de cuisine. C'est surtout apprendre à se connaître, connaître ses désirs, connaître les sources de plaisir que l'on peut avoir, être bien droit dans ses bottes, avoir ce pouvoir de pouvoir dire, ah oui, ça j'ai vraiment envie, ou ben non, ça c'est quelque chose que je ne souhaite pas, parce que finalement une sexualité épanouie, c'est pas une sexualité sans tabou, c'est une sexualité qui nous ressemble, qui nous fait du bien, qui est dans le partage aussi avec le partenaire. Et donc on a voulu à travers ce livre d'abord parler en nos propres noms, d'abord jeunes filles qui avons fait, vous savez, des tests dans des petits magazines où on nous demandait de cocher A, B ou C pour savoir si on était clitoridienne ou vaginale. Et puis qu'en fonction de ce qu'on était, c'était plutôt valorisant ou dévalorisant. Et puis on nous donnait les techniques, évidemment, pour pouvoir bien le manier, notre sexe. Et donc on a d'abord voulu faire cette introspection personnelle. Et puis on a interviewé toute une série de femmes. On est parti en week-end avec elles. Et notre souhait était de donner plusieurs fois cet ouvrage pour faire comprendre à quel point on peut avoir un ressenti, un discours et des envies qui sont différentes d'une femme à l'autre.
Alors, vous disiez justement dans ce livre que toute la littérature a longtemps tourné autour du pénis.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à entendre et à lire sur le clitoris plus qu'avant ? C'est quand même une avance par rapport au passé ?
Oui, et d'ailleurs, on le voit d'ailleurs dans la littérature scientifique, il y a de plus en plus de publications qui sont dédiées au clitoris. Et voilà, mais c'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'encore actuellement, beaucoup de femmes s'imaginent que le clitoris, c'est simplement une petite perle, donc, et en fait ça représente uniquement la partie externe du clitoris. Et le clitoris dans sa forme complète, en réalité, était découverte en 1559 par un anatomiste
qui faisait... Vous connaissez effectivement tout l'historique du clitoris.
Et donc c'est fou que déjà à cette époque-là, en fait, on connaissait la forme complète, et en fait c'est passé aux oubliettes des recherches scientifiques à partir du moment où on a pu relier le clitoris au système reproductif. Donc là on s'est dit, il sert à rien en fait, un petit brol.
En tout cas, il ne servait qu'au plaisir. Dès qu'on a su que le clitoris n'aidait pas à la reproduction, n'aidait pas à cette reproduction fertile, en tout cas, que la femme pouvait donner, du coup, vaut mieux l'oublier en fait.
Voilà. Alors, heureusement, des chercheurs plus contemporains ont vraiment voulu interviewer, parce que celui qui a réveillé à coups d'eau froide le clitoris, c'était Freud. Mais Freud, il était un juste représentant de la mentalité de l'époque, qui était très phallocentrée. Tout était centré vers le phallus, vers le pénis. Donc là, lui, ce qu'il expliquait, c'est que finalement, une sexualité qui pouvait être prise par le clitoris, c'était une sexualité qui était immature, et que les femmes, bien dans leur féminité, devaient trouver le plaisir grâce à la pénétration, donc grâce à leur vagin. Mais il a été ce représentant de la mentalité de l'époque. Maintenant, on n'est plus du tout là-dedans. Je pense qu'on est prêt à entendre que la sexualité masculine et féminine se conjuguent de façon différente et qu'on doit les entendre. Et c'est comme ça que les chercheurs contemporains, eux, sont vraiment investigués en disant, quelle est la source des plaisirs féminins.
Alors, Christine Delmotte disait tout à l'heure qu'elle voudrait donner des scolaires pour pouvoir entrer dans les classes avec le spectacle. Vous aussi, vous pensez que le clitoris peut être enseigné, peut-être en tout cas mis en thème sur les bancs de l'école ?
Bien sûr, parce que si on en parle de la façon la plus simple du monde, ça ne deviendra plus un tabou. Et donc maintenant, il faut trouver, en fonction de l'âge des enfants, les justes mots. On parle d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est clair, quand on est en maternelle, mais là, on va plutôt parler de la verbalisation de ses émotions, des liens d'amour, mais plutôt entre les parents, entre les copains, et puis pour progressivement arriver à la sexualité. Mais si on attend l'adolescence pour uniquement parler d'une sexualité qui fait peur, avec les infections sexuellement transmissibles, avec les grossesses non désirées ou les abus sexuels, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel de l'éducation à l'amour et à la sexualité, qui est celui de partager cet amour et de toujours avoir un amour aussi pour soi, un respect pour soi.
Est-ce qu'en tant que sexologue, vous abordez cela avec des jeunes? Quel est votre public? Est-ce que quand on vient vous trouver, on est voilà, dans la tranche plutôt 25, 65, 70 ans ou plus jeune?
Oui, c'est ça. Non, il peut y avoir des jeunes qui arrivent en consultation, parfois même avec leurs parents d'ailleurs, pour pouvoir aborder le sujet. Après, ben, je l'ai fait pendant énormément d'années, maintenant je ne le fais plus. J'allais dans les écoles pour faire justement des animations à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et on se rend compte à quel point ils peuvent être friands. Après les petits rires nerveux du départ, on se rend compte à quel point c'est un lieu qui peut être très intéressant pour l'aborder. Parce qu'en tant que parent, donc je suis pour aussi que les parents abordent le sujet.
Mais c'est
beaucoup plus délicat, en fait. Il y a une pudeur qui est nécessaire. Parler de comment... de pratiques sexuelles, des choses comme ça. Enfin, chacun sa place, en fait. Donc le discours doit être différent pour les parents par rapport à des animateurs de ce type-là d'animation. Mais oui, il faut en parler.
Christine Delmotte, vous trouvez aussi, par rapport à vos comédiennes justement, que le message a été compris tout de suite quand vous avez mis en scène, notamment ce passage dont on parle d'auscultation gynécologique. Est-ce qu'elles ont été réticentes?
Non, évidemment, les comédiennes étaient, comme moi, hallucinées dans ces histoires. On en a beaucoup ri, en réalité. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons cherché comment théâtralement traduire cela. Parce que l'auto-examen gynécologique, ben c'est dans une pièce fermée, c'est, je dirais, 10 femmes entre elles, avec une doctoresse qui fait enlever les petites culottes, les jambes s'écartent, et avec les spéculums, on analyse chacun son propre sexe, le sexe d'une autre, en expliquant, etc., en voyant les variations mensuelles, etc., enfin, au cours du mois. Voilà, donc... en réalité, la situation, c'est celle-là. Ce qui, évidemment, est difficilement mettable en scène comme ça, dans cette situation-là.
Abruptement, oui.
Abruptement, c'est compliqué, c'est ça. Je n'ai pas envie d'être interdite, ni voilà.
Et donc. Si le but est d'entrer dans les classes.
Même les comédiennes, franchement, oui, c'est ça. Mais même les comédiennes, par rapport à un spectacle adulte, ça aurait été limite. C'est pas l'intention. Et donc, tout le travail était de chercher comment, évidemment, traduire ce sexe qui, brusquement, devenait important. Et, après moult recherches et moult improvisations autour, finalement, c'est un grand tableau avec un sexe peint, un énorme sexe peint qui apparaît entre les jambes d'une fille. Et c'est ce sexe-là qui est analysé. Voilà. Et donc aussi, on a un sexe en gros plan. Et je sais que par rapport au scolaire, de nouveau, évidemment pas par rapport à un public adulte, mais il y a deux points où nous devrions en parler un petit peu avant. C'est le fait de l'apparition de ce sexe en grand et le fait qu'au moment des fémines, une des actrices enlève un t-shirt. On voit des seins, c'est ça. Et on voit absolument rien. C'est évidemment... pour les fémines, dans une intention, je dirais, tout à fait militante. Et les fémines, d'ailleurs, sont tout à fait défendues dans cette démarche-là.
Nos seins, nos armes. Voilà. Chris Polis, vous êtes docteur en anthropologie à l'Université de Liège. Vous enseignez notamment la communication et les représentations sexuelles, l'anthropologie et l'ethnologie de la sexualité, ou encore l'éducation à la vie affective et à la sexualité au cours de la vie. Alors, après tout ce qui vient d'être dit, le droit de disposer de son corps, la liberté de jouir ou de parler de son clitoris, ce sont des acquis propres à nos démocraties. C'est une chance, j'imagine, par rapport à bien des pays du monde que vous étudiez, une chance fragile et toute relative, cela dit.
Extrêmement relative. Hein. L'avortement est remis en question, on est vraiment sur le fil, les manifestations sont organisées pour lutter contre l'image justement du corps des femmes, la réappropriation médicale du corps des femmes lors de l'accouchement, l'encadrement des naissances, etc. Les femmes perdent vraiment ce qu'elles avaient revendiqué, notamment en 68, mon corps m'appartient, et on voit qu'il y a trois générations après, il y a un glissement terrible où les femmes reviennent quelque part des biens de la société qui est principalement dirigée par des hommes.
Est-ce que dans d'autres cultures, il y a une plus grande transmission finalement de la sexualité ou de son corps ou de l'apprentissage du corps entre générations ?
Alors, il y a des cultures qui transmettent beaucoup plus. On va prendre toute une série de cultures indiennes qui essayent de revenir à leur système traditionnel et à leur système beaucoup plus ouvert que les nôtres. Il y a des cultures amazoniennes aussi, où il y a un passage très facile. Il y a des cultures qui restent très ethnicisées, comme celle des Maasai, par exemple, où effectivement, en Érythrée, il y a des transmissions comme ça de la mère à la fille, des grands-mères aux filles. Mais ce sont des cultures qui soit ont été, on va dire, j'en fais un terme dur, contaminées, et alors au fur et à mesure qu'elles tombent sous, on va dire, sous le joug ou sous la structuration et la réflexion des sociétés occidentales, perdent leur transmission et finalement se basent ou sont obligées de se baser sur notre fonctionnement qui est un fonctionnement extrêmement tabou. Ça, ce sont des cultures que nous n'allons pas explorer, en tout cas que nous ne copions pas parce qu'on considère que nos sociétés sont beaucoup plus avancées et beaucoup plus évoluées dans la connaissance et dans l'apprentissage que ces cultures-là. Par contre, il y a toute une série de cultures où la transmission est très grande, mais où le corps des femmes appartient encore plus au groupe et à la société, notamment les cultures traditionnelles qui pratiquent les mutilations génitales féminines. Mmh, mmh. La transmission est très grande puisque c'est par la tradition qu'on continue à respecter ces mutilations, ce que nous appelons des mutilations. Donc la transmission se fait effectivement, même des mères qui ont subi, qui en ont souffert, le font faire à leurs filles. Mm-hmm. Les grands-mères rappellent qu'il faut le faire, les belles-mères surveillent que leur fils épouse bien une fille qui a été excisée ou infibulée. Là, ce sont des traditions qui sont extrêmement fortes, donc des transmissions qui sont très fortes, alors que justement, on aimerait que ces pratiques-là disparaissent.
Des petites filles nées ici, qui retournent pendant les vacances dans les pays d'origine et dont les grands-mères ou les tantes font pratiquer
il y a l'exciseuse, il y a un calcul, même quand les parents d'ici ne le savent pas, mm-hmm. le fait d'aller dire bonjour à la famille qui est restée au pays, c'est logique, c'est normal et c'est très important, notamment culturellement, mais il y a des petites filles qui reviennent, ou des plus grandes d'ailleurs, qui reviennent excisées, voire même infibulées en revenant d'Éthiopie par exemple, d'Érythrée, de Djibouti, etc., alors qu'elles allaient juste pendant 15 jours en vacances et puis les parents les retrouve mutilés ici.
C'est terrible. On parlait de clitoris avec Alexandra Hubin. Alors, ces pratiques d'excision, c'est surtout quoi? D'interdire l'accès à l'orgasme des femmes?
Alors, il y a beaucoup de raisons. Ça, c'est un des motifs. C'est supprimer la question du plaisir, ce qui assure, dit-on, une fidélité des femmes, puisqu'elles ne vont pas avoir envie ni de faire l'amour, ni d'explorer plus leur corps au niveau de la sexualité et du désir. Mais il faut faire aussi une différence entre l'infibulation et l'excision. L'excision, alors je vais employer un drôle de terme, mm-hmm. si elle est bien faite, hein, excusez-moi pour l'expression. Mm-hmm. De toute façon, il y a des pays comme l'Égypte ou le Mali qui la pratiquent, faite par des médecins qui ont été formés, par exemple ici en Belgique, qui ont eu cours dans nos universités et puis qui retournent dans leur pays et qui vont pratiquer ce type de mutilation, ce type de coupure ou de découpage, avec toute la les précautions médicales pour éviter qu'elles ne soient faites n'importe comment. Mais en attendant, ils continuent effectivement à reproduire quand même et à maintenir la tradition en pratiquant ce genre de choses. Donc l'excision, donc juste l'ablation du clitoris, peut être pour des raisons de plaisir, mais n'empêche pas du tout le plaisir des femmes si elle est bien faite et si la cicatrisation est bien faite. C'est-à-dire si on a juste coupé le capuchon du clitoris ou si on a juste... Alors, excusez-moi sur le juste, hein. Mm-hmm. Couper le clitoris, les femmes ont encore un plaisir, notamment un plaisir vaginal, un plaisir anal, un plaisir du toucher, un plaisir de la caresse. Tandis que dans la fibulation, c'est impossible, elles ne sauraient rien avoir du tout, puisque tout est coupé, y compris les grandes lèvres, c'est recousu extrêmement serré, donc avec juste le petit trou pour les règles, pour uriner, ce qui veut dire des affections, des blocages, etc. Donc là, la question du plaisir, on ne sait même pas en parler, simplement... elles peuvent trouver du plaisir avec des caresses extérieures, des baisers dans le cou, la bouche, etc. Mais dès qu'on approche de leurs organes génitaux, en général, c'est catastrophique.
C'est la douleur. Le clitoris, on le voit, donc, c'est vraiment un organe de lutte culturelle et traditionnelle. On peut aussi le remarquer dans les controverses autour de l'excision. Certains anthropologues la défendent au nom du relativisme culturel et dénoncent même une forme de colonialisme dans la lutte contre l'excision. On va loin, là.
Voilà, oui, effectivement. Mais il y a des anthropologues internes et des anthropologues externes qui ont ce discours-là. Et les anthropologues internes, moi, je peux comprendre qu'ils disent « mêlez-vous de vos affaires, nous allons nous en occuper nous-mêmes », parce que justement, à partir du moment où ce sont de nouveau les sociétés nord-occidentales qui se donnent un droit d'ingérence pour venir dire comment il faut se bien comporter par rapport à leurs propres références, c'est fatalement ressenti à nouveau comme « je me mêle de toi et je vais te donner la bonne éducation et la bonne évolution ». Tandis que si le travail vient de l'intérieur, et il vient de l'intérieur, parce que rien qu'au niveau officiel, dans les années 1950, on avait déjà des réunions d'ethnies dans la région des Grands Lacs qui étaient en train de faire un appel, notamment à l'Europe, pour aider justement à pouvoir propager une information qui allait aller à l'encontre de toutes ces pratiques par des ethnies que ces réunions, les femmes qui étaient dans ces réunions-là, considéraient comme barbares. Donc il n'y a pas eu l'attente des sociétés non-occidentales pour s'en rendre compte. Mais il y a aussi autour de ce clitoris, outre le plaisir, le gros problème aussi de la sexuation, c'est-à-dire la reconnaissance du masculin et du féminin, et du coup la construction du masculin et du féminin, parce que toute une série d'ethnies, et des gens le disent même chez nous aussi, considèrent que le clitoris c'est un mini-pénis. Donc si c'est un mini-pénis, c'est donc du masculin. Si c'est du masculin et qu'on veut avoir une femme parfaite, il faut lui supprimer. Donc on a ça qui lutte à la fois contre la question du plaisir, et c'est toute la question du plaisir qui tourne autour du clitoris, mais c'est aussi toute la question du droit à être une femme complète, et une femme complète, ce n'est pas une femme à qui on va enlever quelque chose. Une femme complète, c'est une femme qui a effectivement son clitoris aussi, et le clitoris ne peut pas être comparé au pénis masculin. Mais tout ça, c'est de l'information et de l'explication qu'il faut évidemment maintenir et continuer à donner autant dans n'importe quel pays que dans les nôtres, parce qu'on voit aussi un recul vers une connaissance de la sexualité qui est assez gênante par rapport à mai 68, par exemple.
Merci beaucoup à vous, Chris Polis.
Merci.
Vous restez avec nous, hein, si vous le désirez. Merci beaucoup. Une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, Christine Delmotte et Alexandra Hubin.
C'est un sujet terrible, évidemment. C'est un sujet énorme par rapport à l'excision. Et c'est vrai que quand on parle de relativisme culturel par rapport à cela, moi, c'est quelque chose qui me fâche assez fort, parce que l'ingérence occidentale, je peux la comprendre par rapport à différents sujets. Dans le féminisme, effectivement, je pense qu'il faut du respect pour différentes choses. Pour ça, c'est, pour moi, c'est de la torture, je dirais, organisée, légalisée depuis trop longtemps, et qu'il faut faire cesser d'urgence, de façon légale et je dirais forte, vraiment. Il faut, je ne comprends pas comment ça a pu perdurer si longtemps. Je trouve que là, il y a vraiment, il y a des mouvements beaucoup plus forts qui doivent se lever pour cela.
Mmh. Alexandra Hubin.
Mais moi, j'en reçois en consultation. Et c'est vrai que c'est une blessure pas juste physique, c'est une blessure mentale. Et la notion du plaisir, on le travaille, parce qu'effectivement, ben maintenant qu'on connaît enfin c'est simplement pour revenir à mon livre, donc on voit que la forme complète du clitoris, c'est pas juste le gland, la partie extérieure et tout ça, et donc on se rend compte qu'en fait l'accessibilité au plaisir est totalement possible. Et pour elles, c'est un combat. Certaines vont choisir de faire l'opération, par exemple, de reconstitution. Donc maintenant en chirurgie, il y a vraiment des avancées terribles qui sont réalisées, et d'autres vont dire non, en disant mais non, ça va être de nouveau une nouvelle mutilation. C'est mon corps de femme tel qu'il a été, à cause de ceci ou à cause de cela, mais je veux l'accepter, et surtout je veux en avoir du plaisir. Et donc on se travaille cette dynamique-là. Mais c'est difficile, ouais.
Nous en reparlerons encore, gageons, sur ce clitoris. On rappelle votre livre, Alexandra Hubin, Entre mes lèvres, donc mon clitoris, avec coécrit avec Caroline Michel. Le spectacle de Christine Delmotte à Avignon et encore en Belgique
Au mois de novembre, il y aura beaucoup de dates en novembre. D'accord. En Wallonie, j'espère à Bruxelles aussi.
Un site internet pour aller s'informer?
C'est le site de la compagnie Biloxi 48. Biloxi qui est la compagnie théâtrale avec laquelle je travaille, et au Théâtre des Martyrs aussi. Donc,
Très bien, voilà, cette émission abordait certains des acquis gagnés de haute lutte par nos aînés, mais à une époque où l'on observe, comme le disait Chris Polis, de plus en plus que les droits des femmes sont menacés de régression, même dans nos démocraties, bien le message que nos invités voulaient vous partager ce soir était « Soyons vigilantes, car rien n'est jamais acquis ». Alors à bientôt et à très vite pour un autre rendez-vous de la laïcité. Bonsoir à toutes.
Bonsoir.
Bonsoir.
En quête de sens
sur la première.